Directeur Jeu, la radio insolite. Vous savez que derrière des artistes, derrière des personnes, il y a toujours des gens. On ne s'attend pas à trouver ça. Et là, pourtant, je le suis, je le pratique, je le supporte. Il me supporte depuis je ne sais combien d'années. Mais Thierry a eu un parcours avant de tomber dans la magie du spectacle et tout. Bonjour Thierry.
Bonjour Alain.
Thierry de Pina. Alors, je ne savais pas qu'en 2007, tu étais encore épidémiologiste.
Oui, absolument.
Mais qui c'est que ça, là?
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il en faut. Il en faut des épidémiologistes. Enfin, il en fallait. Ou il en faut toujours, d'ailleurs.
Oui,
et oui, bon. J'étais épidémiologiste, effectivement. Et j'avais même une société de recherche sous contrat pour l'industrie pharmaceutique. Ouais.
Ouais, bon,
épidémiologiste et chef d'entreprise, oui.
Alors, permets-moi la liberté de dire, quand on sait qui tu es aujourd'hui, on se dit que c'est pas possible qu'il ait eu un métier aussi sérieux avant.
Ben oui, mais tu sais, j'étais épidémiologiste et il n'y avait pas du tout de pandémie. Et du coup, j'ai décidé d'être comédien le jour où le Covid est arrivé et où les théâtres ont fermé. Voilà. En fait, j'ai fait les choses à l'envers, quoi.
Ouais, alors j'aime bien ta présentation. Je décide d'être comédien le jour où de la pandémie ou le théâtre ont fermé, pourquoi pas. Et tout. T'as toujours Oui, t'as toujours eu envie de faire du théâtre?
Alors non, pas du tout. En fait, j'étais un spectateur assez du théâtre. J'ai adoré le théâtre quand j'ai vécu 23 ans à Paris et j'allais au théâtre plusieurs fois par semaine. Et c'est vrai qu'on met en tant que spectateur. Et un jour, je suis allé au théâtre du Rond-Point et je suis allé voir un spectacle avec Yolande Moreau, Quand la mer monte, où ça l'affaire du sexe et du crime. Et elle choisit toujours un spectateur dans le public pour le faire monter sur scène. Et ce jour-là, c'était moi, de la grande scène du théâtre du Rond-Point. Et voilà, je suis resté 10 minutes sur scène avec elle. Et j'ai trouvé ça merveilleux de ce côté-là aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est quand même assez grisant d'être sur la scène. Et voilà, j'ai entamé ma reconversion.
Alors, ce que j'ai bien aimé dans ta présentation de ta reconversion, c'est que tu dis que tu étais trop âgé pour pouvoir accéder à toutes les formations possibles.
Eh oui, ben oui, c'est vrai que quand on démarre, j'aurais bien voulu avoir une formation dans un centre national, mais ça a été très compliqué parce qu'il y a un âge limite pour entrer dans ces écoles. Donc effectivement, à pratiquement 50 ans, non. On n'est pas admis dans beaucoup d'écoles, donc on est obligé de suivre un cursus plutôt dans le privé. Heureusement, donc il y a eu le Théâtre National de Nice avec Irina Brou qui a ouvert des formations aux comédiens professionnels sur Nice, auxquels j'ai pu m'inscrire, même si j'étais pas encore professionnel, et qui m'a permis quand même de faire de très belles rencontres et d'avoir une formation de très bonne qualité. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de reprendre un parcours de formation à cet âge avancé, disons. Voilà.
Alors, juste une question discrète. Où c'est que tu as trouvé ce nom de compagnie?
Ah,
alors, il faut que tu dises le nom de la compagnie d'abord,
oui,
et puis tu expliques.
Oui, la compagnie s'appelle Ah, le zèbre. Parce qu'en fait, chez moi, je reçois aussi des artistes à la maison. J'ai un loft sur Nice, place Garibaldi. Et sur un de mes murs, il y a un zèbre, une taxidermie de zèbre. Et à chaque fois que les gens rentraient, ils disaient Ah, le zèbre. Et voilà, donc le jour où on a créé la compagnie, on s'est mis autour de la table. Et une des personnes du bureau a dit, si on appelait la compagnie à le zèbre. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, surtout que le zèbre, pour moi, évoque beaucoup de choses, notamment la bipolarité science et art, hein, et puis la singularité, parce que c'est ni blanc ni noir, chaque zèbre est unique, et c'est vraiment les valeurs que notre compagnie porte. Donc voilà, c'est né comme ça.
D'accord. Tu tournes depuis des années avec un spectacle qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Le Mardi à Monoprix.
Oui,
et puis là,
oui.
Ça y est, tu décides d'en faire un autre qui s'appelle Béhi Bonheur.
Oui, c'est même le troisième du même auteur. Hein. Ça clôture en triptyque autour de l'auteur d'Emmanuel Derlet, mais effectivement, voilà, le Béhi Bonheur est le troisième spectacle et troisième monologue. Voilà.
Pourquoi Emmanuel Derlet?
Parce qu'Emmanuel Derlet, il y a des fois, on a des rencontres avec des auteurs, ça paraît une évidence. Mmh. Même si Emmanuel Derlet nous a quittés il y a plus de 10 ans, j'ai rencontré son écriture. On m'a parlé de ses textes un jour à l'occasion d'un dîner. Et j'ai commencé à lire un premier texte d'Emmanuel Derlet, qui était d'ailleurs Le Mardi à Monoprix. j'ai eu un coup de cœur et j'ai dévoré son écriture et pour moi c'était une évidence. C'était un auteur qui me correspondait dans son écriture, dans les thématiques qu'il abordait. Et je me suis reconnu en lui et voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait des rencontres comme ça avec un auteur. Et ça a été là, voilà, j'ai voulu travailler sur son écriture et lui rendre hommage puisque là, cette année, ce sera les 10 ans de disparition. Et c'est pour ça que cette année, je présente mes 3 spectacles autour de son œuvre.
Alors, Pays Bonheur, si on devait présenter, on dirait que c'est la recherche du bonheur, tout simplement.
Oui, Pays Bonheur, c'est la recherche de bonheur. C'est la recherche du bonheur de tout un chacun, mais là, en l'occurrence, un personnage qui s'appelle Elias. Qui est un migrant, qui vit en Occident avec le rêve d'une vie meilleure. Voilà, donc c'est son parcours de vie, de sa décision de départ pour fuir un quotidien épouvantable jusqu'à sa fin de vie en Occident, dans ce pays qui n'est pas vraiment le sien, mais qui ne pourra plus jamais quitter, et le pays d'origine dans lequel il ne pourra plus retourner puisque tout le monde l'a oublié. Donc une cruelle histoire hein, d'un homme qui va se retrouver seul dans un pays qui n'est pas le sien. Voilà. Et la grande désillusion de cet avenir meilleur qui finalement il n'aura pas vraiment trouvé.
J'ai l'impression que c'est un spectacle, un message, parce que le spectacle, il invite à réfléchir sur ce qui fonde une société plus humaine et à la manière dont nous partageons collectivement l'espérance d'un avenir meilleur.
Oui.
Y a toute une réflexion quand on sort, quand on rentre, on est dans une certaine configuration. Quand on sort, on a vécu un moment, comme manière d'échange, assez conséquent.
Oui, alors c'est un peu le propre de ces spectacles-là, c'est vraiment des témoignages et un partage avec le public. Effectivement, moi l'objectif c'est de changer les regards et d'amener à la réflexion. Et effectivement, déjà l'idée c'est de changer un petit peu le regard sur les migrants en montrant que parfois ce n'est pas vraiment un choix et que c'est des parcours très difficiles et très douloureux. Et puis toujours ramener un message très universel. Et là, en l'occurrence, qui la quête d'une vie meilleure et du bonheur. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'est posé déjà cette question-là, de changer de vie, d'aller vers quelque chose de nouveau et de mieux, avec la crainte et la peur d'aller vers cet inconnu. Et voilà, Pays Bonheur parle de cela aussi. Comment se construire ailleurs quand notre quotidien n'est pas celui que l'on souhaite.
J'ai l'impression que tu aimes bien les spectacles engagés.
Oui, c'est déjà l'auteur est engagé. Et moi aussi, je ne conçois le. C'est vrai que je ne conçois le théâtre que lorsque j'ai un sujet vraiment à défendre. C'est ce qui m'anime. Et même dans les très jeunes publics, parce qu'on fait du très jeune public. On joue pour les publics de maternelle, donc à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Et là aussi, j'ai toujours des sujets très engagés sur l'écologie, sur la différence, sur le vivre ensemble. Parce que c'est vraiment l'ADN de la compagnie, le vivre ensemble et la diversité. Et c'est vrai que ces textes sont dans cet ADN, en tout cas.
Il passe pas inaperçu en plus les textes.
Ils passent pas inaperçus, non. Ce sont des textes qui laissent pas indifférents. Voilà, on peut adorer comme détester parce que forcément, hein, il aborde. Déjà, il y a une façon de parler qui est très franche, très directe, avec toujours, voilà, un phrasé particulier, des inversions de mots, des syntaxes très très propres à l'auteur que moi j'adore, qui donnent beaucoup de poésie et de musique au texte. Et qui renforce les messages.
D'accord. Le mardi à notre prix, comment va Marie-Pierre?
Ah ben Marie-Pierre, elle va bien, elle continue sa route, elle continue sa route, et elle va arriver à Paris, donc à l'Essaillon, et elle retournera à Avignon encore cette année, parce qu'elle a fait 3 Avignons juste extraordinaires, donc encore un texte engagé, donc puisque Marie-Pierre est une femme qui avant s'appelait Jean-Pierre, et qui rend visite à son papa tous les mardis, parce qu'il avait des bons temps, voilà. Et voilà, encore une fois, Emmanuel Darley, là, a utilisé la transidentité comme prétexte pour parler surtout de la différence et du regard de l'autre. Et encore une fois, le sujet est bien, bien plus universel qu'il n'y paraît. Voilà.
Tu joues les deux à la même période? Comment ça se passe?
Alors oui. Alors Pays Bonheur, il va être joué au Guichet Montparnasse dès ce jeudi, donc du 8 janvier au 2 avril, tous les jeudis à 19h. Mmh. Le mardi à Monoprix, lui, il va être joué dans un deuxième théâtre qui est le Théâtre de l'Essaillon. Et lui, ça va être les vendredis et samedis du 20 février au 28 mars. Mmh. Et le premier volet du triptyque qui s'appelle Qui va là, que tu connais aussi, mmh, où là j'interprète Alexandre, hein, sans domicile fixe, encore un sujet léger. Lui, il sera joué exceptionnellement pour 3 jours au Bouffon Théâtre, toujours à Paris, les 13, 14 et 15 février. Voilà, donc l'idée c'était de présenter ce triptyque à Paris à l'occasion des 10 ans de la disparition d'Emmanuel Darley.
D'accord, et sur Avignon, tu as déjà programmé de revenir, je crois.
Alors Avignon, j'ai programmé de revenir avec le mardi à Monoprix, à la Scala Provence, voilà. Et j'espère pouvoir présenter Pays Bonheur aussi le jour des mes relâches. Et pourquoi pas Qui va là si je trouve une opportunité, parce que j'aimerais vraiment profiter de cette année 2026 pour parler de l'auteur, mmh, et proposer mon travail sur cet auteur, donc au travers de mon triptyque.
Donc une année 2026 qui se présente sous les meilleurs augures.
Oui, j'ai une année 2026 qui est extrêmement remplie par mes spectacles et aussi par mes activités dans les maternelles, parce qu'on a un fort engagement dans les maternelles des quartiers sensibles de Nice, les quartiers prioritaires, et nous faisons de l'éducation artistique et culturelle aussi, et j'ai un agenda très chargé dans les écoles maternelles jusqu'au mois de juin.
Ben c'est bien, ben super.
Oui, c'est bien, bon. C'est bien.
Si on veut plus d'infos, il suffit d'aller sur le site internet de la compagnie Alezem, je suppose.
Oui, absolument. Et de nous suivre sur Facebook ou Insta. Voilà.
D'accord. Bon, bah écoute, plein de bonnes choses pour 2026 pour toi, qui a l'air de bien démarrer. Et puis, au plaisir de te recroiser très vite.
Bah, avec grand plaisir. Au revoir.